Vous écoutez RTL.
RTL.
C'est mon ami intime. Tous les jours, je lui pose toutes sortes de questions. Un hôtel pas cher, un restaurant coréen, des horaires de train, une recette de cuisine. Google ne me quitte jamais.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors, à force de vivre en permanence avec Google, il connaît mes goûts, mes rendez-vous. Bref, il sait tout de moi. Et moi, que sais-je de Google ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous allez en savoir plus sur Google grâce à la curiosité sur RTL. C'est donc un géant économique, la première entreprise mondiale. On vous dévoile les projets de Google avec la journaliste Christine Cardellan. Google qui va bientôt fêter ses 20 ans, ce sera l'année prochaine en 2018. Tiens, on fait un peu d'histoire, on raconte comment elle a été créée, par qui ?
Alors, ce sont deux étudiants américains qui se rencontrent sur le campus de Stanford et qui, simplement, ont commencé à travailler ensemble, à échanger leurs sujets de thèse, etc., et à discuter. Et c'est l'époque du début d'Internet. À l'époque, on a des moteurs de recherche qui s'appellent AltaVista ou Lycos. Évidemment, Google n'existe pas puisqu'on va l'inventer bientôt. Et donc, ce n'est pas très facile d'aller sur Internet et de chercher la page qu'on a envie de lire sur le site dont on a vaguement entendu parler.
Mmh. Alors, il s'appelle Larry Page et Sergey Brin.
Voilà, alors l'un est boursier, Sergey Brin, il est fils d'un émigré russe. Larry Page, lui, est le fils de Carl Page, qui était un pionnier de l'intelligence artificielle.
Déjà. C'est intéressant. Déjà, voilà. Et alors, ils doivent acheter des centaines d'ordinateurs, parce qu'ils ont cette idée du moteur de recherche, mais il y a un moment où il faut bien compiler les données, donc ils ont besoin d'acheter des ordinateurs. Voilà. Ils s'adressent à qui pour trouver l'argent ?
Alors, ils s'adressent aux grands de l'informatique de l'époque, hein, à DEC, à...
Yahoo,
enfin un certain nombre, tous les grands quasiment y sont passés, et refusent. Et les seuls qui acceptent de donner un peu d'argent, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a fondé il y a très peu de temps Amazon, et qui lui se mordra les doigts. Les premiers que je citais tout à l'heure, ils regretteront évidemment de ne pas être entrés dans le capital de Google. Par contre, Jeff Bezos, lui, il peut regretter de les avoir aidés, parce qu'aujourd'hui, sur Google Shopping, par exemple, ils sont quand même concurrents entre Amazon et Google.
Alors, Google voit le jour en 1998. Est-ce que c'est un succès fulgurant, ce moteur de recherche ?
Ah oui, c'est un succès quasiment immédiat aux États-Unis. Il va très vite aller dans les autres pays, en France un an après. Et donc très très vite, en fait la force de Google par rapport aux autres moteurs qu'il y avait avant, c'est qu'ils ont compris que les pages les plus intéressantes étaient celles vers lesquelles renvoyaient le plus d'autres pages, d'autres sites. Mmh. Hein, donc c'est une sorte de classement déjà fait finalement par les internautes. Hein, aujourd'hui avec le partage et quand on note, etc., c'est exactement la même chose. Mais eux, ils avaient déjà compris ça à l'époque. Donc les pages qui arrivaient en tête de votre recherche, c'est celles qui étaient un peu plébiscitées.
Qui avaient
si
été
on veut,
les plus recherchées.
Voilà,
en fait,
par les internautes.
Christine Cardellan, vous publiez dans la Google du Loup, c'est aux éditions Plon. Et dans ce livre, vous imaginez le futur que Google nous promet. On va voir. Il est assez effrayant. En introduction du livre, vous rappelez plusieurs citations des fondateurs et du président de Google, Eric Schmidt. Vous pouvez nous lire la première et la dernière.
Alors, la première
de ces citations.
Elle est signée Larry Page.
Voilà,
donc
c'est Larry Page, le cofondateur, en 2004 déjà, dans un entretien avec un journaliste américain, Stephen Levy. Alors, il dit « Google sera inclus dans le cerveau des gens, vous aurez un implant ». Et quand vous penserez à quelque chose, il vous donnera automatiquement la réponse.
Alors ça, c'est déjà assez effrayant, on en parlera tout à l'heure. Et puis, une citation d'Eric Schmidt, qui lui est le patron actuel, c'est ça ?
Oui, le PDG, enfin le président. Seulement le président. Maintenant, parce qu'il considérait que Larry Page et Sergey Brin étaient des grands enfants et qu'il fallait quelqu'un pour un peu tenir les finances de la maison.
Alors donc, lui, il parle en octobre 2010.
Alors il dit, nous savons où vous êtes, nous savons où vous étiez, nous savons plus ou moins ce que vous pensez.
Mais ils ont le melon ou alors ils savent vraiment, ils annoncent la couleur de ce qu'ils font ?
Non, effectivement, c'est pas tellement ce qu'ils font, mais s'ils veulent chercher, aujourd'hui ils ne s'amusent pas à espionner chacun d'entre nous, mais s'ils veulent, si la NSA ou la CIA leur demandent de chercher, de donner des informations sur telle ou telle personne, ils peuvent le faire très facilement. L'historique de vos recherches. Ils savent toutes les recherches que vous avez faites.
Comment on en est arrivé là ? Parce qu'au départ, Google, c'est un outil qui offre la connaissance.
C'est comme un gros dictionnaire, finalement.
C'est un gigantesque dictionnaire. Comment on en est arrivé à ce que cette entreprise, grossissant, devenant de plus en plus puissante année après année, ait la capacité de tout savoir sur nous ?
En fait, le problème, c'est que Google, ce n'est pas une entreprise philanthropique. Elle a besoin de gagner de l'argent. Donc très vite, Larry Page et Sergey Brin se sont dit comment on fait pour gagner de l'argent ? Parce que c'est bien que les gens massivement viennent faire les recherches chez nous, mais et alors, ça nous rapporte quoi ? Ouais. Et c'est là où ils ont eu l'idée de la publicité liée à ce que vous recherchez. C'est-à-dire si vous avez cherché, je cherche des baskets pour aller faire du footing, en 120 millièmes de seconde, votre profil est vendu aux enchères. C'est-à-dire que Google sait exactement tout ce qu'il y a à savoir sur vous, votre âge, votre profession, votre statut marital, votre adresse, ce que vous avez acheté récemment, réfrigérateur, voiture, pneus, je ne sais pas, n'importe quoi. Il sait absolument tout ce que vous avez fait. Et donc, ce profil est mis aux enchères en 120 millièmes de seconde. Hein. Et c'est tout de suite, évidemment, des gens comme Nike ou comme Reebok, ou si vous cherchez des chaussures, ce sont eux qui vont proposer le prix le plus cher pour acheter votre adresse.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
Comme 9 Français sur 10, vous utilisez Google tous les jours, vous n'y réfléchissez même plus et vous n'imaginez sans doute pas tout ce que le géant américain fait des données personnelles que vous lui offrez en échange de ses services. La journaliste Christine Kerdelan nous met en garde dans un livre publié chez Plomb. Ça s'appelle « Dans la Google du loup » et on adore le titre avec Thomas, c'est aux éditions.
Bravo, oui.
Plomb, vous imaginez un couple dans un futur proche. Il n'a pas vraiment, il n'a plus vraiment le pouvoir sur sa vie. On va comprendre pourquoi. Par exemple, quand la jeune femme veut boire une bière juste après avoir fait l'amour, que lui arrive-t-il ? Que se passe-t-il ?
En fait, son réfrigérateur ou lui refuse l'ouverture du compartiment dans lequel il y a ses boissons alcoolisées. Parce que le réfrigérateur sait qu'elle est enceinte. Elle ne le sait pas encore. Et d'ailleurs, en réalité, elle ne l'est pas. Hein, mais ça, je ne vais pas raconter.
Faut pas tout raconter.
Mais sa balance connectée, le matin, a vu qu'il y avait une différence de sa masse graisseuse avec je ne sais quoi. Et ça a suffi pour que, comme elle avait arrêté la pilule et que son pharmacien le savait puisqu'elle n'en achetait plus, tous les renseignements sur elle se mettent ensemble, se liguent d'une certaine manière ensemble pour faire croire qu'elle est enceinte.
Ça veut dire que les machines se parlent entre elles. Les
Exactement.
Machines que vous avez dans
tout
votre
est
maison.
Tout connecté dans la maison. On est dans un futur très proche, hein, dans 2, 3, 4, 5 ans.
Cette technologie, pardon, je vous interromps, elle existe déjà aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Le réfrigérateur qui ne s'ouvre pas si vous êtes enceinte et vous n'avez pas le droit aux boissons alcoolisées, oui, ça existe. Mais en fait...
Technologiquement, c'est possible.
C'est possible. Voilà. Je voudrais quand même expliquer ce que j'ai voulu faire en racontant... Il y a des parties romans dans mon livre qui est principalement un essai. Mais pour chacun des domaines dans lesquels je montre le danger de Google, c'est-à-dire que ce soit la fin de la vie privée, que ce soit le danger du transhumanisme, le danger de l'eugénisme, que ce soit la fin des plaisirs à la française, ou que ce soit le totalitarisme économique ou le prise de pouvoir des robots, dans tous ces domaines-là, ça paraît pas concret, ça paraît de la science-fiction, ouais. C'est irréaliste presque. Et donc, je me suis dit que j'allais, dans chacun des chapitres, ouvrir par 10 ou 15 pages qui sont du roman. Je raconte, avec les mêmes personnages, au fil des chapitres, comment on vit dans une époque où Google est allé jusqu'au bout de ses recherches.
Mais les outils qui sont aujourd'hui en la possession de Google ou de ses filiales pour tout savoir sur nous? Parce qu'il y a le moteur de recherche, on en a parlé, mais il y a quoi d'autre?
Le principal, c'est le moteur de recherche, mais si vous envoyez des mails par Gmail, il y a tous vos mails qui sont épluchés. Hein. Tout à l'heure, vous racontiez comment vous cherchiez un vélo pour enfant, etc. Mais si dans un mail, vous aviez écrit « cherche un vélo pour enfant », pas seulement dans Google. Si vous envoyez un mail à un ami disant « tiens, t'as pas un ancien vélo de ton fils parce que le mien en a besoin maintenant », vous recevrez aussi une pub pour des vélos pour enfants.
Mais c'est épluché pour bien imaginer, c'est-à-dire qu'il y a un humain à l'autre bout du monde qui lit...
C'est juste des recherches sur les mots. C'est évidemment, personne ne peut faire ce travail.
Un immense logiciel qui sélectionne tous ces mots-clés.
Exactement, et qui les rapproche, qui les met dans des familles. Ouais. Ça, c'est des centaines et des centaines de serveurs très très puissants de Google. Donc là, on disait Gmail. Ça peut être Google Pay, si vous achetez avec Google Pay, qui est maintenant ce qui vous permet de payer avec votre téléphone. C'est Android, si vous avez un téléphone sous Android. Si vous avez un Apple, si vous avez un iPhone, il n'y a pas de problème. Enfin, pas de problème avec Google de ce point de vue-là.
Il peut y en avoir avec Apple.
Si on a par exemple un Samsung.
Voilà. Mais si vous avez un Samsung, c'est Android. Vous êtes sous Android. Android, c'est le système d'exploitation créé par Google. Ce qui fait que tout ce que vous faites sur votre Samsung passe par Android et remonte chez Google. YouTube appartient à Google. Donc, quand vous cherchez des vidéos et vous regardez les pubs qui vont avec, c'est Google que vous enrichissez.
Google Maps, évidemment,
Google Maps,
cartes.
Voilà.
On peut savoir où
Android,
on a été dans la journée, les itinéraires
Exactement.
Qu'on a fait, etc.
Si vous pouvez aller voir Location History, qui est un logiciel qui vous montre... qui vous retrace tout le parcours que vous avez fait dans la journée, parce que vous avez le GPS sur votre téléphone via Android, ou par Google Maps aussi qui enrichit les choses, et on peut savoir exactement à quel endroit vous êtes allé, quelle minute, combien de temps vous êtes resté, tout est possible.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Dans la Google du loup, c'est le titre du livre de notre invitée, la journaliste Christine Kerr-Delan. Vous y décrivez donc un futur proche où tous les projets de Google auraient abouti. Parmi ces projets, et je rappelle cette citation du cofondateur Larry Page, Google sera inclus dans le cerveau des gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un implant cérébral ? C'est à ça qu'il travaille ?
Ce dont il parlait à l'époque, c'était quelque chose qui remplace le moteur de recherche dans votre téléphone. C'est-à-dire vous l'avez directement dans le cerveau. Ils avaient inventé les Google Glass il y a quelques années. Ces Google Glass, maintenant, c'est un des rares projets de Google qui a été enterré parce que les Américains ont protesté. Ça n'existait pas encore en France, hein, mais les Américains, vous savez, ces lunettes, vous entriez dans un bar et vous filmiez tout ce qu'il y avait avec tout ce que faisaient les gens avec l'air de rien. Donc les gens se sont rebellés et ils ont même tiré une fois au fusil sur une femme qui arrivait avec une paire de Google Glass. Donc l'idée de Google, c'était qu'il faut trouver des prolongements du cerveau qui permettent d'avoir le moteur de recherche autrement que sur un téléphone portable. Le matin, vous avez Google, vous répond à vos questions avant même que vous vous les posiez. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça sur votre téléphone. C'est un peu ça. Quand vous l'avez dans le cerveau, par exemple, je regarde votre sigle RTL là-bas, hop, automatiquement, j'ai la fiche Wikipédia RTL. C'est le cerveau qui réagit en fonction des impulsions qu'on lui donne. Cet implant n'existe pas.
Voilà, c'est ce que je vais vous demander.
Il travaille, même si il y a énormément il dépose des brevets constamment, Google. Autant l'implant rétinien, donc dans les yeux, cette espèce d'implant liquide qu'on met, qui durcit ensuite, qui vous permet d'avoir des yeux comme des caméras, en fait, comme un mini ordinateur. Ça existe parce que le brevet, effectivement, il est déposé, il a un numéro et je le mets dans mon livre. Par contre, l'implant cervical, il n'existe pas encore.
L'idée, c'est que Google devienne un assistant, un conseiller personnel, c'est-à-dire aide les humains à faire des choix.
Qu'il soit l'interface.
Et notamment des choix très privés.
C'est-à-dire pour tous vos choix, il sera là pour vous aider en permanence. Il y a tellement de projets dans tous les sens qu'on a l'impression que tous les moments de notre vie privée vont être balisés. Par exemple, on a découvert que là, ils viennent de lancer aux États-Unis une application gratuite, comme d'habitude, qui vous permet, à partir de Google Earth, vous savez, ces cartes de vue du ciel de votre village, de votre maison, ils ont donc, s'ils ont votre adresse, ils ont le toit de votre maison, ils peuvent calculer la surface du toit pour calculer le nombre de panneaux solaires que vous pouvez mettre sur votre toit. Et ensuite, ils vous disent, avec les panneaux solaires que vous avez sur votre toit, vous pouvez générer X kilowattheures d'électricité. Et donc, vous pouvez vous passer d'EDF à 80% ou 90%, etc. Et vous allez dire, comment gagne-t-il de l'argent avec ça ? Simplement, une fois que vous avez fait votre calcul, vous voulez un devis, eh bien, il vous conseille gentiment les deux ou trois artisans qui peuvent venir vous poser les panneaux solaires sur votre toit.
Christine Kerr-Delan, si on veut échapper à Google, on a la possibilité, par exemple, d'aller sur ce moteur de recherche français qui s'appelle Quant. C'est quoi la différence ? Comment ça marche ? Est-ce qu'on peut tous y aller ?
Alors, évidemment, tout le monde peut aller sur Quant. D'ailleurs, l'Éducation nationale a signé un partenariat avec Quant. Donc, je pense que les enfants dans les écoles doivent aller sur Quant plutôt que d'aller sur Google. Quant, c'est exactement la même chose que Google, mais peut-être moins puissant. C'est-à-dire qu'il a eu moins d'historique de recherche d'internautes et il a moins de serveurs. Mais il est aussi rapide. Thomas qui l'utilise, on dirait qu'il est
ça
pas
va aussi
plus,
vite.
Il est pas plus lent que Google.
Il y a aussi beaucoup d'infos, autant d'infos que sur Google.
Je pense qu'il y a autant d'infos, en tout cas sur l'actualité. Il a même les réseaux sociaux qui sont indexés au départ. Quand vous faites votre recherche, vous avez sur la page les réseaux sociaux, ce qui a été dit à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, qui apparaît sur la droite. Et il n'y a pas de pub, sauf si vous appuyez sur l'onglet shopping. Et là, vous allez faire du shopping. Mais il ne garde pas l'historique de vos recherches.
Alors ça c'est le plus important. Quant. Quant. Moi, j'y suis allé pour ça. Parce qu'ils s'engagent à ne pas conserver nos données personnelles, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Ils ne conservent pas vos données personnelles.
Et donc, sauf à vouloir aller faire du shopping, on ne reçoit pas les publicités liées aux recherches qu'on peut faire sur Quant, comme le décrivait Sidonie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives sur d'autres outils pour se passer ou pour éviter Google ?
Oui, c'est difficile, je pense, d'éviter tous les domaines. Mais à la place de YouTube, vous pouvez aller sur Dailymotion. À la place de Google+, le réseau social, vous allez sur Facebook. Bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens sur Facebook que sur Google+. À la place de Gmail, vous utilisez tous les autres logiciels. Enfin, je ne sais pas, sur Orange ou d'autres messageries que celles de Google.
Il y a d'autres pays comme ça dans le monde qui créent aussi leur propre moteur de recherche en réaction à ce pouvoir incroyable de Google.
En Russie, le moteur de recherche est plus puissant que Google, plus puissant au sens où il a plus de 50% des Russes qui sont sur ce moteur de recherche plutôt que d'être sur Google. En Chine, pareil. En Chine, Google est tout à fait minoritaire.
Pour aujourd'hui, c'est fini, mais vous nous connaissez. On revient demain.
On sera là demain, dès 14h. On va grimper sur la grande muraille de Chine et raconter son histoire. Et puis, on va aussi se passionner pour les petites phrases en politique. Du coup, avec ces deux thèmes, on va forcément, vous verrez, parler de bravitude.
Dans un instant, vous retrouvez le grand studio Humour avec Laurent Boyer. Il reçoit les Chevaliers du Fiel.
Ma femme a voulu s'inscrire à toutes les activités, tu vois.
Dans le Festival du Vang.
Ah, dans le Festival du Vang,
tu vois. Et alors, elle a choisi quoi comme activité?
Alors, elle voulait faire, tu sais, le crash surf, là, le truc, tu sais, les parachutes derrière un hors-bord, là. Tu sais, t'as un hors-bord, tu tires et t'as un parachute.
C'est vrai qu'elle a toujours rêvé de se faire tirer par une vedette.
Hein. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Allez, bon après-midi et à demain. We'll be right back.